France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le vendredi 25 juin. Bonjour Laurence Thomas.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, les autorités américaines, toujours sans nouvelles d'une centaine de disparus dans l'effondrement spectaculaire d'un immeuble résidentiel hier à Miami. On redoute un bilan très lourd. La cause de la tragédie est toujours inconnue. On voit ça en détail, Laurence, après les autres titres.
Les régionales et les départementales, deuxième tour ce dimanche. Nous ferons avec Maxence Lambrec un tour d'horizon des diverses situations, des présidents sortant en situation confortable, aux bascules possibles pour les départementales. La reprise touristique poussive outre-mer. Seulement 40% des chambres occupées et des réservations assez floues malgré le déconfinement. Une agression antisémite. Le juge a retenu cette circonstance aggravante lors du procès qui se tient à Bobigny en région parisienne. Le couple Pinto avait été sauvagement agressé en septembre 2017. Et puis c'est le coup d'envoi demain du Tour de France. Les fans ont pu aller dès hier à la rencontre de leurs idoles et notamment le néerlandais Mathieu Van Der Poel qui marche sur les traces de son grand-père Raymond Poulidor.
Rendez-vous et invité de la matinale aujourd'hui à 7h45, le débat éco avec Thomas Piketty et Dominique. Ceux qui se demanderont à quoi servent les économistes dans le débat public, deux jours après la remise du rapport Tirole-Blanchard au président de la République. À 8h20, on va parler politique, abstention dans le grand entretien avec la directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, Céline Braconnier, et le politologue Jérôme Jaffray, directeur du Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique. Participez au débat, évidemment. 01 45 24 7000.
France Inter.
Une course contre la montre est engagée aux États-Unis à Miami, en Floride, après l'effondrement d'un immeuble résidentiel de 12 étages en bord de mer. Un mort pour l'instant, mais les autorités restent sans nouvelles de 99 autres personnes. Loïc Loury, vous êtes en direct de New York. Alors, les faits se sont produits très tôt dans la nuit de jeudi, très tôt le matin. Les opérations de secours se poursuivent depuis, Loïc.
Oui, absolument. Et on a, à vrai dire, aucune idée de ce qui a pu se produire, aucune hypothèse avancée pour le moment. On sait que des travaux de remise aux normes de ce bâtiment vieux de 40 ans étaient en cours, mais la procédure, à vrai dire, n'avait rien d'exceptionnel. Les autorités n'ont que peu communiqué sur la question, tout comme elles n'ont rien laissé filtrer à propos du bilan. Vous le disiez, un mort officiellement, mais on a du mal à croire qu'il ne va pas augmenter. Il y a d'abord ce chiffre que vous évoquiez, une centaine de personnes disparues, et cela presque 24 heures après la catastrophe. Et puis, difficile d'être optimiste. Lorsque l'on voit l'ampleur du désastre, il ne reste rien du bâtiment qui s'est effondré. Toute une partie d'un complexe résidentiel de Surfside, cette ville balnéaire, dans l'orbite de Miami. 12 étages réduits en miettes. Une cinquantaine d'appartements au total dans lesquels des gens dormaient puisque l'effondrement s'est produit à 1h30 du matin. Les recherches ont duré toute la journée à l'aide de chiens, de sonars pour repérer des survivants. La course va se poursuivre cette nuit, longue nuit pour les proches de disparus puisque les autorités n'ont prévu, Laurence, de s'exprimer qu'à 8h du matin, heure locale, sur la situation.
Loïc Loury en direct de New York pour France Inter.
Il est 7h04, deuxième tour dimanche des élections régionales et départementales.
Dernier jour de campagne aujourd'hui, et puis à minuit, période de réserve jusqu'au vote. Alors l'abstention va-t-elle jouer les arbitres de ce deuxième round ? Les incertitudes sur la participation et le report des voix laissent ouverts les résultats. Un second tour à géométrie variable. Faisons un tour d'horizon. Bonjour Maxence Lambrec.
Bonjour.
D'abord voyons les régionales. Les présidents sortants sont les grands favoris dans une situation plutôt confortable, mais deux zones sont sous surveillance avec un risque de statu quo.
Oui, la prime au sortant est telle que c'est le plus probable avoir exactement la même carte de France dimanche soir. Toujours 5 régions en rose, 7 en bleu et la Corse autonomiste. Mais attention, si l'abstention est moins forte, c'est encore ouvert en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le RN Thierry Mariani peut créer la surprise et offrir à Marine Le Pen un tremplin exceptionnel. La deuxième zone sous surveillance, les Pays de la Loire. Et si la gauche, rassemblée autour de l'écolo Mathieu Orphelin, faisait tomber la discrète LR Christelle Morancé ? La droite, triomphante dimanche dernier, pourrait donc tomber de haut à Nantes et Marseille. Ailleurs, suspense limité. Les socialistes Alain Rousset en Nouvelle-Aquitaine et Loïc Chesnais-Girard en Bretagne ont fait le pari de ne pas s'allier aux écolos. Vont-ils le regretter ? En Bourgogne-Franche-Comté, le RN peut-il se réveiller au point de gagner la quadrangulaire ? Enfin, qui sera le mieux élu entre Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez ? Jeudi prochain, 1er juillet, ouverture des comptes de campagne pour la présidentielle.
Et qu'en est-il, Maxence, des élections ? élections départementales, y a-t-il là des bascules possibles ?
La droite va conserver la grande majorité des départements et espère conquérir à la gauche le Val-de-Marne, les Alpes de Haute-Provence, le Finistère, la Loire-Atlantique, peut-être l'Ardèche. Ça se jouera à chaque fois à un ou deux cantons près. La gauche, elle, compte reprendre les Côtes d'Armor, la Charente, peut-être la Seine-Maritime et le Vaucluse. En tout cas, aucun département au RN et le risque d'alliance LR-RN est écarté. La droite et le centre pourraient piloter dimanche soir trois quarts des départements français.
Maxence Lambrecq, les régionales en Ile-de-France, on vous parlait hier soir à 18h du grand écart entre deux anciens premiers ministres socialistes, l'un Manuel Valls appelant à voter pour Valérie Pécresse, l'autre Lionel Jospin en soutien de Julien Bayou et de sa liste de rassemblement à gauche avec Audrey Pulvar et Clémentine Autain. Nous vous disions que la sénatrice PS et ancienne ministre Laurence Rossignol appelait elle aussi à soutenir la candidate LR en Ile-de-France. C'est une erreur, Laurence Rossignol ne soutient pas Valérie Pécresse. Elle appelle au contraire à voter pour la liste de rassemblement à gauche dont Julien Bayou est tête de liste.
Il est 7h06, Laurent, suite du journal sur France Inter.
La campagne vaccinale s'essouffle en France alors que plane le risque d'une quatrième vague à la rentrée. 200 000 primo injections par jour, c'est trop peu, a regretté hier le Premier ministre en déplacement dans les Landes. Or, à ce jour, seule la vaccination pourrait éviter un rebond du Covid. En cause, le variant Delta venu d'Inde, beaucoup plus transmissible et potentiellement plus dangereux. Cluster de ce variant dans les Landes et également dans le Bas-Rhin au sein d'une entreprise de Detwiller près de Saverne. Sur le plan national, les chiffres sont bons. Les admissions quotidiennes en service de soins intensifs restent parmi les plus faibles de cette dernière vague. 27 personnes hospitalisées en soins intensifs ces dernières 24 heures, 250 sur une semaine contre 350 la semaine précédente. Cette situation en Outre-mer est par contre beaucoup plus disparate. Les restrictions sanitaires ont pourtant été assouplies le 9 juin. Plus besoin de motifs impérieux pour voyager, excepté pour la Guyane, où le nombre de cas reste important, avec une incidence de 281 pour 100 000 habitants. Ailleurs, comme dans les Antilles, la plupart des restrictions sont levées, ce qui ouvre la voie depuis deux semaines à l'arrivée des touristes. Mais en Guadeloupe, les chambres d'hôtel se remplissent plutôt doucement. Rémi Brancat.
Plus besoin de motifs impérieux pour arriver en Guadeloupe, mais au Créole Beach Hotel du Gosier, seuls 40% des chambres sont occupées et les perspectives du directeur Vincent Waltroni sont floues.
On n'a pas un grand boom dans les réservations, mais par contre, on a beaucoup de demandes. Il y a quand même des contraintes qui restent. Il y a un couvre-feu qui est encore à 23h qui permet de passer de belles soirées, mais pas encore de nuit sur la plage, comme on pourrait en rêver dans les Caraïbes.
Il faut aussi s'isoler une semaine pour les voyageurs qui ne sont pas totalement vaccinés depuis 14 jours, un frein pour le redémarrage total, mais Willy Rosier, le directeur du comité du tourisme des îles de Guadeloupe, est confiant.
Si vous regardez le nombre de gros porteurs qui arrivent de Paris-Orly et Roissy, on va passer de 8 à 12 vols par jour, hein. Ça représente 3 à 4 000 personnes par jour.
En Martinique aussi, les vols ont augmenté de 40% par rapport à 2019. Là, le couvre-feu est levé. Alors François Baltus Languedoc, le directeur du comité du tourisme, espère séduire ceux qui ne pourront pas partir dans certains pays étrangers.
La Martinique qui est une destination exotique. Au niveau sanitaire, on a des hôpitaux, la sécurité sociale, on paie en euros. Donc aujourd'hui, le Français va avant tout rechercher une destination rassurante.
Tout comme son homologue de Guadeloupe, il lance d'ailleurs une grande campagne de communication pour les métropolitains et la clientèle locale.
Rémi Brancato.
Il est 7h09, l'affaire avait fait grand bruit en septembre 2017, Laurence, quelques mois après le meurtre de Sarah Halimi.
Trois membres d'une même famille juive avaient été séquestrés pendant le cambriolage de leur maison de Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis. Le juge d'instruction a retenu la circonstance aggravante de l'antisémitisme. 9 accusés comparaissent depuis mardi devant les assises à Bobigny. Et hier, les 3 victimes sont venues à la barre livrées de douloureux souvenirs. L'Aurélie Carive.
Cette explosion de violence a dépassé ce que nous pouvions supporter, lâche à la barre Roger Pinto, 88 ans. Voix tremblante, lui et son épouse racontent cette matinée du 8 septembre 2017. L'irruption de 3 jeunes hommes dans leur pavillon cossu de Livry-Gargan. « On m'a mis une main sur la bouche, on m'a jeté au sol », se souvient Mireille Pinto. « Mon mari a pris des coups de pied partout, notamment à la tempe. J'étais sûre qu'on n'en sortirait pas vivant », souffle la septuagénaire avec des sanglots dans la voix. Les 3 agresseurs cherchent un coffre-fort. Ils nous ont dit « Vous êtes juifs, donc vous avez de l'argent, vous êtes les gâtés de la terre ». Pendant plus de 2 heures, la maison est mise sens dessus dessous. Après avoir ligoté le père et son fils, les malfaiteurs repartent avec 500 euros en espèces, des bijoux et des cartes bancaires. Mireille Pinto en est persuadée, l'agression était préméditée. S'ils avaient juste voulu nous cambrioler, ils l'auraient fait pendant qu'on était en vacances. Pour l'avocat de la famille, Marc Ben Simon, l'affaire repose bien sur un préjugé antisémite.
On ne sait pas forcément ce qu'est un juif. On ne sait pas forcément ce qu'est l'antisémitisme. Je ne suis pas certain que les jeunes dans le box, les accusés, le sachent. Mais par contre, dans leur esprit, ils sont persuadés que le juif a de l'argent et on peut porter atteinte à l'intégrité d'une personne parce qu'elle est de confession juive, car on est sûr qu'on trouvera de l'argent chez elle.
Des accusés qui, pour 5 d'entre eux, encourent la réclusion criminelle à perpétuité.
Le relique arrive. Des ossements, des débris, des vêtements et un sac à dos ont été découverts à Bagnols-sur-Cèze. L'ADN devra dire s'il s'agit de Lucas Tronche, porté disparu depuis 2015. L'adolescent de 15 ans n'était jamais revenu à son domicile après un cours de natation dans une commune voisine.
Il est 7h11, Laurence. Rencontre lourde de symboles aujourd'hui à la Maison Blanche.
Joe Biden accueille le président afghan Ashraf Ghani au moment où les talibans enregistrent d'impressionnants gains militaires sur le terrain. Certains redoute que les forces gouvernementales afghanes, déjà démoralisées, ne soient submergées par les insurgés quand le retrait des troupes américaines sera achevé d'ici le 11 septembre. Une promesse du président américain, or le départ des GIs laisse d'immenses chantiers, Claude Guibal.
Il y a cette date, le 11 septembre, à cet horizon, le départ total des troupes américaines d'Afghanistan et sa cohorte d'incertitude avec le retour quasi inéluctable des talibans une fois la voie libérée. Côté politique, le chantier laissé par les Américains est total et ce n'est pas cet accueil aujourd'hui à la Maison Blanche qui va permettre au président afghan Ashraf Ghani de regagner de la légitimité dans son pays après avoir été marginalisé lors des pourparlers de paix qui ont eu lieu entre Américains et talibans au Qatar. Face à la poussée des talibans qui encerclent une partie des villes majeures du pays, la population se prépare, ceux qui en ont les moyens anticipent un exil et envoient leur famille à l'étranger. Ceux qui ont collaboré avec les États-Unis s'attendent aussi au pire, bien que les talibans ont promis de ne pas exercer de représailles. Plus de 18 000 dossiers sont actuellement étudiés par l'immigration américaine. La multiplication des demandes d'immigration touche l'ensemble des pays de l'OTAN. La Grande-Bretagne s'apprête à relocaliser sur son sol plus de 3 000 personnes. En Italie, Mario Draghi dit redouter une vague importante de migrants. Il attend une réponse coordonnée de toute l'Europe.
Claude Guibal, J-1, Laurence, avant le grand départ du 108e Tour de France cycliste.
Avec hier soir à Brest, la traditionnelle présentation des coureurs et le retour, enfin, du public pour les saluer, du moins pour tous ceux qui avaient un pass sanitaire. À l'applaudimètre, le Français Julien Alaphilippe et son maillot de champion du monde se sont distingués, mais un autre coureur est en train de conquérir le cœur des Français. Il s'agit du Néerlandais Mathieu Van Der Poel, qui marche sur les traces de son grand-père, Raymond Poulidor Fagnier-Lechevestrier.
Mathieu Van Der Poel!
L'image qui reste de la présentation des équipes ce matin, c'est en effet Mathieu Van Der Poel et son arrivée sur le podium avec un maillot mauve et mordoré, rappelant la célèbre tunique Mercier de Raymond Poulidor, légende du Tour de France disparue il y a 2 ans. Un hommage à papy, comme il dit.
Ouais, c'est bien réussi et c'est joli de faire quelque chose comme ça pour papy.
Mathieu Van Der Poel, les mêmes traits que son grand-père, même élégance, même aura. Son équipe Alpecin Phoenix en a joué jusqu'au bout en publiant sur les réseaux sociaux vidéos et photos où son champion prend les mêmes poses sur le capot d'une voiture que Poupou en son temps. La ressemblance est troublante. Mathieu va même disputer, comme Raymond, son tout premier Tour de France à l'âge de 26 ans.
J'aurais encore mieux aimé le faire avec papy au village départ quand même, mais j'ai hâte de découvrir le Tour quand même. Bah oui, ce serait un rêve quand même de prendre le maillot jaune. Oui.
Le maillot jaune que n'a jamais porté son grand-père. Et hier à Brest, beaucoup rêvaient de voir l'histoire aboutir pour que la légende Poulidor perdure encore longtemps sur les routes du Tour.
Et ajoutons que Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, sera l'invité du journal de 13h.
Merci Laurence Thomas. Dans 3 minutes, secret d'info sur le vaccin russe Sputnik V, snobé en Europe.